ce que nous constatons avec vous, avec les médias, les préfets, avec les universitaires qui travaillent le sujet, c'est que nombre d'associations proposant des activités sportives, culturelles, artistiques, linguistiques ou autres, qui ont pour raison d'être l'accompagnement des plus précaires ou l'aide alimentaire, déploient en réalité des stratégies assumées d'endoctrinement. Les associations doivent unir la nation et pas la fracturer.
Sur fond de nationalisme, le gouvernement a annoncé lors du discours des Mureaux vouloir lutter contre les séparatismes. Mais au-delà de la police du culte qui s'instaure, c'est l'ensemble du monde associatif qui est mis au pas. Avant même la loi confortant les principes républicains, il y a un contexte, une défiance de l'État vis-à-vis du monde associatif, un climat tendu, où l'on demande à des associations de signer des chartes de la laïcité, où les cas d'entrave à l'action associative se multiplient, où les libertés associatives sont menacées et où la législation vient renforcer le contrôle social. La transformation du monde associatif est engagée depuis plusieurs années, avec la baisse structurelle des financements, moins 1,7% par an sur 10 ans, avec la marchandisation et la mise en concurrence des associations, avec la précarisation des salariés, notamment depuis la fin des contrats aidés. Outre ce contexte de désengagement de l'État, ce sont aujourd'hui aux libertés associatives que le gouvernement porte atteinte avec cette nouvelle loi. Pour en comprendre les enjeux et le contexte global de contraintes qui se développent, nous avons interrogé plusieurs actrices et acteurs du monde associatif.
Et nous ne céderons rien sur ce principe, qui est au cœur même de la liberté qui est associée à la protection des associations dans notre pays et au statut si particulier qu'elles occupent dans la République.
Nous sommes un certain nombre d'associations à avoir reçu, donc de la part des services de l'État, une charte de respect des valeurs de la République et du principe de laïcité.
Laurent Zaderatsky de Culture et Liberté et du réseau régional Le Mouvement Associatif.
Pour la plupart d'entre nous, la laïcité fait partie intégrante, c'est dans l'ADN même de nos associations. Ça fait partie de nos statuts et c'est notre quotidien. Notre inquiétude est plus que forte, puisque sur cet aspect, on demande un certain nombre d'engagements et de nouveau, le présupposé établi est celui de la défiance, puisque nous avons à justifier. On nous confie de l'argent public, on doit rendre des comptes sur cet argent public confié, et ça c'est normal. Que là, sur la laïcité, on nous demande à respecter un certain nombre de choses sur lesquelles on est d'accord, sur par exemple l'égalité femmes-hommes, promouvoir une culture du respect, de la compréhension de l'autre, on ne peut être qu'en accord. Par contre, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est ce glissement qui se fait, nous assimilant petit à petit à, en fait, des services publics. Alors que, je rappelle, les associations ont un statut loi 1901. Juridiquement, on a un statut d'entreprise, voilà. Mais nous ne sommes pas des services publics. Parfois, nous remplissons des missions de service public, parce que le service public, parfois, c'est désengagé. Mais nous, ce qui nous inquiète, c'est vraiment cette atteinte aux libertés associatives dans un contexte où militer, revendiquer des choses est de plus en plus difficile. Le moment où on est passé du mode subvention au mode appel à projet, le premier effet, ça a été de mettre les associations en concurrence entre elles. Il y a de la place pour tout le monde pour agir, pour transformer, pour mobiliser. Globalement, l'appel à projet, on n'est plus forcément dans l'écriture et l'invention qui émanerait au départ de l'association, mais plus dans une réponse à une commande publique, un peu quelque part. Là-dessus, je crois qu'on continue de toute façon à être plusieurs, à être mobilisés pour revendiquer le fait de revenir au mode de subvention où il y avait un système finalement d'enveloppe globale à partir du moment où l'association présentait des projets et ensuite elle dispatchait sur là où étaient ses priorités. Donc là aujourd'hui c'est rendu plus difficile. Et puis il y a de nouveau nouvelle strate d'organisation, avec de nouveau des systèmes appel à projet, appel à manifestation d'intérêt. Enfin, je crois que les personnes et les bénévoles qui sont et les salariés qui sont engagés dans l'associatif, ça va leur parler beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai que pour, je pense que on a peut-être nous pas suffisamment insisté auprès des personnes avec qui on fait les actions. Sur cette transformation au niveau de comment les associations aujourd'hui fonctionnaient. Parce qu'en fait, on est dans l'action, tout simplement, et que souvent, on ne prend sans doute pas suffisamment le temps d'expliquer ce fonctionnement. Ça, je pense que c'est quelque chose que, collectivement, on peut aussi avoir comme point de vigilance, que ce soit dans le club de foot, que ce soit dans le club de pétanque ou que ce soit dans une association d'éducation populaire.
Beaucoup d'élus ont commencé à faire signer aux associations sportives ces chartes de laïcité. C'est un contrat renforcé, commun, que nous proposerons à l'ensemble des collectivités territoriales comme modèle, que nous appliquerons et nous avons commencé à le faire. Mais nous souhaitons que partout, État, collectivités, sur tout le territoire, aient la même nature de contrat et d'exigence et les mêmes règles en termes de respect des financements. Avec là aussi un contrôle qui sera permis sur cette base, et donc un suivi financier et une obligation de remboursement, comme je l'évoque.
En octobre 2020, la coalition publiait un rapport, un état des lieux des entraves aux actions associatives en France, intitulé « Une citoyenneté réprimée, 100 cas de restriction des libertés associatives, 12 pistes pour les protéger ». Les auteurs y pointent un paradoxe, alors que la démocratie participative s'expérimente à l'échelle nationale, les associations, acteurs essentiels de la démocratie, sont marginalisées, voire ouvertement attaquées par les pouvoirs publics quand elles prennent des positions critiques ou mènent des actions collectives de défense des droits visant à interpeller les autorités et nourrir le débat public. La boîte sans projet, association d'éducation populaire politique basée à Amiens, a justement subi il y a peu des pressions des institutions, des mesures de rétorsion qui illustrent les relations entre les associations et les pouvoirs publics.
En octobre dernier, donc nous on était prestataire de la Fédé nationale des centres sociaux sur l'animation d'un séminaire jeunesse autour des questions de religion.
Clément Soria, animateur social à la boîte sans projet.
La commande, c'était de faire émerger la parole de jeunes pour débattre sur ce sujet et ensuite porter le débat devant des institutionnels qui étaient invités en fin de processus, dont la secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. On fait parler les jeunes dans ce qu'ils ont raconté de façon très précise, très nuancée, très argumentée. Il y avait notamment des récits de discrimination, de violences policières et autres. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que la secrétaire d'État a ressenti ça quasiment comme une agression contre les principes républicains et s'est cru le devoir de rétablir la bonne parole républicaine, avec le point culminant du truc qui a été d'entonner une Marseillaise, ce qui a provoqué une incompréhension de la part des jeunes et ensuite une rupture de dialogue. Et suite à ça, une inspection à l'encontre de la Fédé et de nous-mêmes en tant que prestataires qui a été commanditée. Et donc qui a abouti à un rapport aujourd'hui public où nous, notamment en termes de sanctions, il y a le réexamen de nos agréments jeunesse et formation. Donc là, nous, on est dans l'attente de cette procédure. Quand on parle d'atteinte aux libertés associatives, il faut bien voir que c'est un continuum de choses. Il y a les choses visibles, il y a les choses moins visibles. Et nous, tout ce qu'on peut te dire là, à l'heure actuelle, c'est que, on va dire, la mesure officielle qui est ce réexamen des agréments. Et autour de ça, il y a un ensemble de choses qui se passent et que nous, on lie à cette affaire et plus généralement à notre histoire particulière, hein, parce que ce n'est pas la première fois qu'on est victime de mesures de rétorsion de par notre discours critique sur un certain nombre de choses et où, en fait, on est écarté de tout un tas de subventions. Là, juste avant Poitiers, on avait été sollicité par les services de l'État pour une subvention sur une question de recherche-action. Et puis au final, on a été débouté de cette demande. Alors les services de l'État nous disent que dans leur procédure, de toute façon, la décision leur appartient et donc ils restent dans les clous administratifs. Mais nous, on ne peut pas s'empêcher d'interpréter ça comme une conséquence de ce qu'on a vécu à Poitiers. Et en ce moment, là, nous, ce qui nous préoccupe, c'est que donc on est espace de vie sociale. Donc on a un agrément de la CAF. Cet agrément-là, il est en renouvellement. Donc nous, on a transmis nos dossiers en fin d'année. Selon les techniciens de la CAF, notre dossier est assez bon, etc. Et jusqu'à présent, on n'a pas de décision officielle du renouvellement de cet agrément. Et ça traîne, et on n'a pas de réponse. On a eu un courrier aussi spécialement adressé par Xavier Bertrand qui nous rappelait qu'on avait subi une inspection pour des faits suffisamment graves qu'ils soient en droit de nous demander de justifier un certain nombre de choses sur le respect des principes de laïcité. Alors qui s'inscrit dans un mouvement plus large, hein, l'échelle de la région de contrôle des associations sur ces questions de laïcité. Il y a un ensemble de choses qui s'articulent et qui nous font dire que les libertés associatives, au-delà de notre cas spécifiques sont un peu plus amenuisés.
Est-ce que d'après toi, ce qui s'est passé, ça préfigure des rapports entre l'État et les associations en termes de posture un peu dogmatique qui s'imposerait aux associations ?
Ça va dans une évolution qui est un processus maintenant qui n'est pas nouveau. Et à la fois, la loi confortant les principes républicains, c'est comme ça qu'on l'appelle, elle acte et elle amplifie un peu ce processus. Pour la question spécifique des libertés associatives, il y a davantage de pouvoir de contrôle qui est entre les mains du préfet, il y a des possibilités de dissolution accrues, il y a toute cette question de l'engagement sur les principes de laïcité, avec du coup un contrôle de la parole des associations et d'un certain formatage en vertu d'un pseudo-principe de neutralité. Hein. Ça me fait toujours un peu sourire quand on parle de neutralité de la part du gouvernement. En général, c'est qu'on parle de l'idéologie de l'État. Et là, je pense que ça va un peu plus dans ce sens-là et que ça va devenir de plus en plus compliqué pour les associations de jouer leur rôle, qui n'est pas seulement un rôle de dépositaire d'une parole républicaine, mais qui est justement d'interroger les cadres, de jouer le rôle de contre-pouvoir, d'animer le débat contradictoire, de faire démocratie en fait. Si je fais le lien avec Poitiers, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire que on avait des jeunes qui exprimaient un point de vue, et en fait on n'a pas permis à ce point de vue de s'exprimer, on l'a censuré, donc on a refusé un débat contradictoire. Donc ça pour moi ça s'appelle un déni de démocratie. En tout cas, moi, le repli communautaire à Poitiers, je ne l'ai pas vu, en fait. Et j'ai vu des jeunes issus de quartiers, pour beaucoup, mais pas que, de différentes religions, notamment musulmanes, mais pas que. Et en fait, tous ces jeunes-là avaient envie de faire partie de la République et de la faire vivre, mais aussi de l'interroger, de la questionner. Et encore une fois, c'est ça la vitalité démocratique. Et si on doit parler de principes républicains, bah, c'est ça, c'est voilà. Mettons ça comme objet de discussion et collectivement, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, et d'avoir un débat, quoi.
Toute association sollicitant une subvention auprès de l'État ou d'une collectivité territoriale devra signer un contrat de respect des valeurs de la République et des exigences minimales de la vie en société, pour reprendre la formule du Conseil constitutionnel. Si le contrat est rompu, ces responsables devront rembourser, car il est nécessaire que l'argent public ne serve pas à financer les séparatistes, c'est d'évidence.
Ce type de pression qu'a subi la boîte sans projet a été analysé et documenté par l'Observatoire des libertés associatives. Divers procédés qui mettent des bâtons dans les roues des associations. Avec la loi confortant le respect des principes républicains, de nouvelles dispositions viennent renforcer le pouvoir de contrainte et la possibilité de sanction des autorités, intensifiant le climat répressif. Si la loi est superfétatoire du point de vue de l'arsenal juridique déjà existant, les mesures qu'elle contient renforcent la possibilité de répression des associations. Particulièrement litigieux, les articles 7 et 8 qui introduisent le contrat d'engagement républicain et qui exposent les modalités de dissolution des associations permettent une forme d'arbitraire dans les sanctions qui pourront être appliquées.
Alors, le contrat d'engagement républicain, c'est un phoné autoritaire.
Jean-Baptiste Jobard, coordinateur du CAC.
C'est-à-dire que ça se présente comme un truc inoffensif. Il y a 10 mesures qui enfoncent des portes ouvertes. C'est-à-dire que, en gros, quand on signe ce contrat, on s'engage à promouvoir l'égalité homme-femme, on s'engage à ne pas avoir de pratiques discriminantes, etc., etc. Bon, que des choses que les associations font depuis très très longtemps. Sauf que le diable est dans les détails, et au détour du texte, il y a au moins deux points clés, un surtout, qui est qu'on s'engage à respecter, à sauvegarder l'ordre public. Et tout le problème est là, dans cette notion d'ordre public, qui n'est pas une notion définie précisément juridiquement, et qui va laisser en fait toute la place à l'arbitraire, et en fait ce qui va permettre de sanctionner concrètement les associations. C'est-à-dire que la question à laquelle ne répond pas pour le moment la loi et donc le décret, c'est qui va juger qu'une association respecte ou pas l'ordre public. Quand l'association attaque, par exemple, va piquer des chaises dans une banque, la BNP Paribas, etc., est-ce qu'on considérera que c'est un trouble à l'ordre public ? Quand on démontrera un McDo demain, est-ce que c'est un trouble à l'ordre public ? Le problème, c'est le flou, et la loi, ce qu'on en connaît pour le moment, n'est pas rassurante, puisqu'elle parle d'agissements violents contre les biens et les personnes, et donc durcit complètement l'appréciation possible des actions associatives. Un des éléments les plus graves de la loi, c'est de conditionner le soutien public à la signature d'un contrat, mais qui se fait avec le fusil sur la tempe. C'est-à-dire que, évidemment, on n'a pas le choix.
L'exposé des motifs de la loi explique la volonté du législateur, ce serait de combattre un entrisme communautaire qui est insidieux sur le territoire français, une dynamique séparatiste.
Jérôme Graff, juriste bénévole à France Nature Environnement, association membre de la coalition.
Et donc c'est pour ça que le projet de loi, en fait, il se donne pour but de renforcer l'arsenal juridique qui serait insuffisant pour faire face, en fait, à l'islamisme radical, mais face aussi à tous les séparatismes. Ce texte, d'une part, il est élaboré dans la précipitation, il est examiné en procédure accélérée. Ce texte qui prétend, en fait, conforter les principes républicains, en fait, concerne directement, même pratiquement, en fait, tous les droits et libertés publiques qui sont constitutionnellement, conventionnellement garantis. La liberté d'association, la liberté de conscience, de culte, de réunion, d'expression, d'opinion, etc. On a plusieurs instances au niveau national et même international qui ont pu alerter sur les conséquences de ce texte qui pourrait fragiliser durablement, en fait, les fondements républicains plutôt que de les renforcer. En fait, dans la plupart des cas, les dispositions qui sont prévues dans ce texte, elles restreignent considérablement de nombreuses libertés. C'est pourquoi on a tout un tas de structures, le Haut Conseil à la vie associative, le Défenseur des droits, le Syndicat des avocats de France, etc., qui ont tous alerté, en fait, sur ces dangers que présente le texte. Alors, est-ce qu'il y a un besoin de légiférer pour encadrer l'action associative ? Il a pu être souligné par ces instances que je précitais que les articles qui concernent les associations dans ce projet de loi, ils sont pour la plupart superfétatoires, c'est-à-dire qu'ils s'ajoutent inutilement au cadre existant. Le cadre existant, il permet déjà au pouvoir public, qui dispose des leviers juridiques nécessaires au contrôle, à la sanction ou encore à la dissolution des associations. On a pu le voir notamment récemment par la dissolution, par exemple, de Génération Identitaire.
Les associations permettent l'organisation de la société civile, le développement de contre-pouvoirs, ce qui est nécessaire justement à la vie politique. Si on prend en compte ce cadre démocratique, quelle rupture introduit la loi ?
Elle tient, à la philosophie générale du texte qui repose sur une conception qu'on peut trouver peut-être dangereuse de ce qu'est l'ordre républicain. Parce que la République, elle trouve sa raison et sa légitimité, son essence, c'est dans la protection des libertés. C'est d'ailleurs le but de toute association politique, c'est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Et donc c'est une chose de vouloir empêcher les excès, le détournement de certaines libertés pour en protéger d'autres, c'en est une autre que de placer les libertés sous surveillance et sous contrôle permanent au nom de la sécurité. Et c'est en ça que ce texte constitue une rupture dans ce cadre démocratique.
La défenseur des droits, Claire Hédon, s'est aussi indignée de ce projet de loi et elle parle d'un renforcement global du contrôle de l'ordre social. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ?
En fait, l'objectif qui est fixé par le texte, le renforcement des principes républicains, il repose pour l'essentiel en fait, sur des dispositions répressives. Il faut savoir que plus d'un tiers des articles visent à renforcer les dispositifs de contrôle et près d'un quart de ces articles définissent des peines d'emprisonnement. Donc c'est donc cette prédominance des dispositions qui ajoutent des contraintes et des sanctions supplémentaires qui conduit à ce renforcement du contrôle de l'ordre social. Et donc on peut le voir dans le chapitre 2 qui est relatif aux associations, qui contient ces dispositions. Il impose ce chapitre dans son ensemble, une mise, je dirais, sous surveillance généralisée de la liberté associative. Le pouvoir veut imposer à toutes les associations de nouvelles contraintes, de nouveaux contrôles dans le cadre de leur vie associative, de leurs actions, de leurs finances, et il les soumet par les dispositions à des risques de sanctions, de dissolution, qui sont arbitraires, mais qui sont tout aussi permanents. Le texte du projet de loi, qu'est-ce qu'il prévoit ? Il prévoit une formulation particulièrement large, puisque le changement proposé donc au premier de cet article 8, il permet d'assimiler à la provocation à des manifestations armées dans la rue la provocation à tout agissement violent à l'encontre des personnes ou des biens. Dans la philosophie du texte, ce changement, on passe d'une mesure qui était à la base faite finalement pour protéger la démocratie contre des provocations, du coup, à des manifestations qui sont armées dans la rue, à une mesure finalement qui relève plutôt du maintien de l'ordre public. Quand on permet la dissolution d'une association pour des motifs de provocation à des agissements violents contre les personnes ou les biens, le texte y renvoie à un très large spectre de violence qui relève de toute forme, si vous voulez, de protestation. Une violence contre une personne, ça peut être constitué en une atteinte physique, tout comme elle peut résulter d'un choc émotif. En visant les violences, le législateur, il a entendu réprimer notamment celles qui, sans atteindre matériellement une personne, sont cependant de nature à provoquer une sérieuse émotion. Quant à violence contre les biens, le champ de la destruction, de la dégradation, de la détérioration d'un bien qui appartient à autrui, qui peut appartenir à une personne publique comme à une personne privée, c'est un champ très large. Donc, et on comprend en fait qu'une action, par exemple, de désobéissance civile qui donnerait lieu à un dommage à l'encontre d'un bien, aussi minime soit-il, pourrait potentiellement, avec cette nouvelle rédaction de l'article 8, donner lieu à une dissolution d'association. Le fait, à l'occasion par exemple d'une grève, de répandre sur le sol du lait contenu dans des bidons ou encore des tags, sont parfois qualifiés non de dommages légers, mais de destruction, de détérioration, de dégradation de biens. Globalement, ce qui peut relever de ce champ, en fait, sont les formes de protestation ou de désobéissance civile. Et la sanction de dissolution en fait, d'une association, moi, me semble assez disproportionnée par rapport à l'objectif qui est poursuivi par cette loi de lutte contre le séparatisme.
Les motifs de dissolution des associations en Conseil des ministres étaient jusque-là très limités. Limités aux faits de terrorisme, de racisme et d'antisémitisme. Ils seront étendus à d'autres motifs, comme les faits d'atteinte à la dignité de la personne, ou de pression psychologique ou physique. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous allons donc renforcer les contrôles, mettre dans la loi les principes en vertu desquels il sera permis de dissoudre les associations et assumer que, en vertu de nos principes républicains, et sans attendre que ce soit le pire, on puisse dissoudre des associations dont il est établi qu'elles portent ces messages.
Le CAC, collectif des associations citoyennes, né en 2010 pour lutter contre l'instrumentalisation et la réduction des associations à leur seule dimension commerciale, et pour défendre la contribution des associations à l'intérêt général et à la construction d'une société solidaire, durable et participative, le CAC, donc, est à l'initiative d'un ouvrage collectif, Quel monde associatif demain ? Qui envisage les scénarios en fonction soit du renforcement des politiques libérales et répressives, soit du développement des alternatives que peuvent porter les associations.
On a des gouvernants, en fait, qui ne supportent plus la contradiction. Et donc, qui ont du mal à concevoir le travail démocratique normal.
Jean-Baptiste Jobard, coordinateur du CAC.
Je ne pense pas que le gouvernement soit contre le milieu associatif. Mais je pense qu'il voudrait un monde associatif qui se tient sage. Pour paraphraser le titre du film de David Dufresne, c'est-à-dire que tant qu'on est dans des associations gentilles, qui répare les dégâts les plus prégnants des politiques néolibérales, on va dire, ça va bien. Mais quand finalement les associations portent en germe des alternatives ou concrétisent des alternatives, inventent des choses qui ressembleraient à des éléments d'un nouveau système, là ça se corse. Et donc je pense que fondamentalement, on est sur un problème de conception du monde associatif qui est en fait, chez nos gouvernements actuels, et en contradiction même avec la loi de 1901, qui est de base une loi de confiance en fait entre les citoyens et les institutions publiques, et les autorités publiques, on peut même dire.
C'est ce qu'on est en train d'évoquer. Dans le monde associatif, il y a quand même deux dynamiques très opposées. Ici, la restriction des libertés associatives, et d'un autre côté, la place grandissante que prennent les associations dans la société civile, non pas uniquement parce qu'elles peuvent porter hein, sur le devant de la scène politique ou leur action en faveur de la démocratie, mais aussi, ne serait-ce qu'en termes d'emploi. Je crois que ça a doublé en 20 ans, les emplois dans les associations. Voilà, il y a vraiment deux dynamiques qui sont opposées. Alors, le collectif des associations citoyennes a publié un ouvrage collectif de chercheurs et d'acteurs et actrices du monde associatif, qui s'intitule « Quel monde associatif demain ?». Alors, au vu de ces deux dynamiques divergentes, comment répondre à la question que pose le livre ?
En France, comme ailleurs dans le monde, effectivement, il y a une dynamique citoyenne d'organisation collective, d'auto-organisation collective qui ne se dément pas et qui se renforce même malgré des conditions de plus en plus défavorables. C'est vrai que c'est un paradoxe et c'est ce paradoxe qu'on a essayé d'explorer dans le livre. Alors, la méthode qu'on a adoptée est très simple en fait. On a deux parties principales dans le livre. On a imaginé ce que serait le scénario du pire, qu'on a appelé le scénario de l'affaiblissement, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qui se passerait si les politique autoritaire néolibérale s'intensifie encore. Voilà, il y a des chapitres qui essayent de préciser comment est-ce que les libertés associatives continueraient d'être restreintes, comment est-ce que la philanthropie continuerait d'apparaître comme la solution, comment est-ce que le managérialisme continuerait à contaminer le monde associatif, c'est-à-dire que finalement, on trouverait de moins en moins de différences dans le fonctionnement interne, y compris employeur-employé, entre des associations et des entreprises. Et puis aussi, il y a un chapitre intéressant qui pointe les conséquences de la réforme de l'administration sur le monde associatif. C'est-à-dire que la défense du monde associatif et la défense des services publics, c'est le même combat. Et c'est ce qu'on essaie de pointer. En fait, ce qui est en jeu, c'est comment est-ce qu'on contre l'extension continue du domaine du marché, comment est-ce qu'on préserve l'action publique et l'action associative dans l'action publique. Et puis, donc, à contrario, on a essayé d'imaginer les composantes d'un scénario du renforcement. On essaye de voir comment est-ce que les associations, dans leur fonctionnement, peuvent inventer en fait des fonctionnements démocratiques qui contamineraient d'autres sphères. Comment est-ce qu'on invente la gestion de la chose commune ? Plein de questions qui sont passionnantes et qui sont à portée de main du monde associatif. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes extérieures, mais il y a aussi des choses qu'on peut faire en interne. Et puis, il y a tout un chapitre sur qui scelle un autre financement du monde associatif est possible. Et ça, ça me paraît important parce qu'à la faveur des enseignements macroéconomiques de la crise, on a quand même balancé des dogmes qui nous emprisonnaient complètement, les 3% de dette, etc., etc. Il faudrait voir comment est-ce qu'on peut imaginer financer un monde associatif qui aurait les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire qui serait vraiment porteur d'un autre monde.
Pour l'instant, vu effectivement la dérive plutôt autoritaire ce que propose cette loi, on est plutôt dans le premier scénario, plutôt catastrophe en fait.
Le livre a été fait là cet automne. Le rapport d'ailleurs de l'Observatoire des libertés associatives a été rendu le 6 octobre. Et au moment où on concevait ça, on n'imaginait pas vivre, j'allais dire, l'automne noir des libertés associatives, mais des libertés publiques de manière générale. On a tout un climat, en fait, répressif. Et effectivement, le livre, en fait, je trouve, tombe à point nommé parce que volontairement, donc, on a essayé de faire 8 chapitres du scénario positif contre 5 du scénario négatif. Et on a quand même besoin de s'arrimer à quelques leviers d'espérance, on va dire.
Et au-delà de l'hétérogénéité du monde associatif, une des difficultés pour mobiliser les associations, c'est aussi qu'il y a quand même une forme de dépolitisation au sein des associations. Beaucoup d'assos se concentrent sur l'action sociale. Ça n'induit pas que ce soit très politisé, qu'il y ait une prise de position forte, en tout cas là-dedans.
L'autre difficulté, c'est que les associations dépendent des financements et donc c'est toujours très très difficile de mordre la main qui nous nourrit.
Là, tu mets le doigt sur le substrat en fait qui permet cette accélération de la restriction des libertés associatives, qui est la fragilisation du monde associatif depuis maintenant des décennies. Mais c'est quelque chose qui est non seulement connu, mais théorisé. Les inspirateurs théoriciens du néolibéralisme, type Friedman, Hayek, etc., l'ont vraiment théorisé, de la même manière que des gens comme Jean-Marc Borello, qui est un conseiller d'Emmanuel Macron, Christophe Ittier, et qui ont très clairement dit que le monde associatif demain, ça serait des associations 10 fois moins nombreuses, mais 10 fois plus grosses. Et donc, on est sur cette rationalisation, en gros, des associations trop nombreuses et trop autonomes, ça fout la merde en fait. Et ça ne permet pas d'imposer une politique qui est dictée par des impératifs de compétitivité, de concurrence de tous contre chacun, etc.
Le 1er juillet 2021 sera le 100e anniversaire de la loi de 1901 qui fonde le droit des associations. L'occasion de mobiliser contre la loi confortant le respect des principes de la République. La coalition, le CAC, le mouvement associatif, prévoient d'ici là d'amplifier la mobilisation et de créer un front commun. Plusieurs moyens d'action sont mis en place, lettres d'interpellation aux préfets, aux élus, aux candidats des élections régionales et départementales, pétitions en ligne, réalisation d'une série vidéo comico-absurde qui sensibilise sur les dangers du projet de loi sur les séparatismes. Malgré la difficulté de mobiliser, il est à noter la capacité de proposition des associations, les initiatives qu'elles portent pour organiser la société civile, les alternatives qu'elles soutiennent, le rôle qu'elles jouent dans les processus démocratiques. Menaces sur les libertés associatives avec Laurence Zaderatsky de Culture et Liberté et du réseau Le Mouvement Associatif, Clément Soria de la boîte Sans Projet, Jean-Baptiste Jobard, coordinateur du CAC, le collectif des associations citoyennes, et Jérôme Graff, juriste bénévole pour France Nature Environnement et La Coalition. Réalisation Micro-Rebelle.